RFI 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et Afrique Soir, c'est avec Paul Lonsin-Spinelli. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une, la fin de la tournée de John Dramani Mahama parmi les membres de l'Alliance des États du Sahel à Ouagadougou. Aujourd'hui, le président ghanéen voulait se rapprocher du Mali, du Niger et du Burkina Faso, donc pour que la CEDEAO reconnaisse l'AES. L'une de ses préoccupations, c'est aussi de conclure des accords bilatéraux avec ces pays. En Mauritanie, les associations de défense des droits humains s'inquiètent des conditions de refoulement des migrants illégaux par les autorités. Une grande partie de l'opposition ivoirienne se rassemble sous une même bannière pour demander des réformes électorales à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. Nous consacrerons aussi notre dossier du soir à cette recrudescence de violence au Soudan du Sud entre le camp du président Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar. Et puis dans la deuxième partie de cette édition d'Afrique Soir, ne manquez pas le deuxième épisode de notre série d'Afrique Echo consacrée au pharaonique projet de Simondou en Guinée. Trois rencontres au sommet pour tenter de convaincre les États de l'AES de refaire un pas vers la CEDEAO. Après le Mali et le Niger ce week-end, le président du Ghana, John Dramani Mahama, rendait visite aujourd'hui aux autorités du Burkina Faso. À Ouagadougou, John Dramani Mahama et le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, se sont engagés à combattre, je cite, le cancer du terrorisme. Sur le plan économique, l'un des grands enjeux pour le Ghana est aussi de maintenir ses liens commerciaux et le trafic portuaire avec les pays enclavés de l'Alliance des États du Sahel. Depuis leur sortie de la CEDEAO, que regrette le président ghanéen, son pays ne partage plus la même zone de libre-échange, Claire Fage.
C'est une préoccupation pour le nouveau président John Dramani Mahama. Le Ghana ne faisant pas partie de la zone de libre-échange de l'UMOA, il lui faut conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO. François Giovalucchi, expert de la zone franc.
Autant l'AES et les autres pays de la zone franc appartiennent toujours à la même zone de libre-échange, la question se pose pour le Ghana et le Nigeria. Donc, pour un pays côtier comme le Ghana, il a intérêt à trouver des solutions pour calmer le jeu et faire en sorte que, par exemple, ses échanges avec le Burkina Faso ne soient pas taxés.
Il s'agit en particulier pour le Ghana de maintenir le rang de son port, Tema, vis-à-vis des ports concurrents de la CEDEAO. Yann Alix, expert du transport maritime.
Aujourd'hui, on a une vraie bataille des corridors avec trois grandes clés d'entrée, que sont Abidjan, Tema et maintenant Lomé. Sur Burkina Mali, vous avez une triple option pour les chargeurs et pour les organisateurs de transport. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, avec l'ouverture du deuxième terminal à Abidjan, Tema avance beaucoup moins vite.
Pour préserver ce trafic de transit à Tema, les autorités ghanéennes ont déjà accordé un allègement de redevance aux chargeurs burkinabés en décembre, tandis que les autorités de Ouagadougou annoncent avoir acquis un dépôt d'hydrocarbures sur le port ghanéen.
Claire Fage, au Mali, il qualifiait de junte les autorités militaires putschistes de l'AES et appelait à combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta. Ses prises de position sur les réseaux sociaux avaient valu à Seydina Touré des poursuites pour atteinte au crédit de l'État. L'opposant a de nouveau vu son procès reporté ce lundi. L'audience devait initialement se tenir jeudi dernier. Des reports dus à l'absence au tribunal de la direction générale du contentieux de l'État. Le militant du parti Alternatif pour le Mali, emprisonné depuis le 2 janvier, devrait comparaître lundi prochain, selon une source judiciaire consultée par RFI. En Mauritanie, une campagne d'arrestation et d'expulsion de migrants en situation irrégulière qui inquiète les ONG. Les autorités mauritaniennes évoquent de leur côté de simples actions de routine. Selon elles, cela sert à régulariser leur situation et à lutter contre les réseaux de trafic de migrants, mais ces refoulements massifs sont anormaux, selon l'Association mauritanienne des droits de l'homme. Écoutez Maître Fatima Tabaye, c'est la présidente de la MDH.
L'expulsion massive est interdite. On peut pas expulser des gens comme ça. Ils ont commencé d'abord par les Sierra Leone. On a vu qu'ils ont rapatrié des Sierra Leone, des jeunes femmes avec des enfants, et certaines étaient en état de grossesse. Quand on a vérifié les documents de séjour qu'elles ont, il y a des cartes de séjour dont certaines cartes ont expiré, d'autres n'ont pas encore expiré, d'autres ont des récépissés, donc on ne peut pas comprendre. Parce que s'ils ont des reçus, ça veut dire que la carte est en cours d'établissement, donc on ne peut pas expulser cette personne parce que le reçu vaut quand même l'enregistrement et donc cette personne elle est régulière. Donc on ne travaille pas dans l'amalgame. Troisièmement, je pense aussi que au niveau de la juridiction spéciale qui a été mise en place, ce que nous avons constaté, on voit que les migrants, leur argent est resté derrière eux, mais on les expulse sans leur restituer quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Même si l'État a le droit de contrôler ses frontières, doit quand même le faire en conformité avec les engagements qu'il a signés.
Maître Fatima Tabaï est jointe par Léa Lisa Vesterhoff. À l'approche de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, l'opposition se met en ordre de bataille pour essayer de se faire entendre. C'est dans ce but qu'a été lancée ce lundi matin à Abidjan la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Un regroupement de 25 partis politiques, dont le PDCI de Tidiane Thiam, le COGEP de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Affine-Guessan. Binta Diagne, quels sont les objectifs de cette plateforme ?
Cette coalition se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange. Principaux objectifs : obtenir un dialogue politique et des réformes électorales, car selon cette coalition, les conditions pour une élection présidentielle apaisée ne sont pour l'instant pas réunies. Ces derniers mois, les membres de cette plateforme ont adressé 2 lettres au chef de l'État, mais en vain. Simone Aïvé Bagbo, porte-parole de cette coalition.
Les partis politiques dans l'opposition maintiennent pour préserver les Ivoiriens des désirs et tentatives scélérates de violence, maintiennent leur appel au dialogue national en vue de pacifier les esprits et conjurer le sort des violences électorales.
Pour éviter les tensions au cours de la présidentielle, le scrutin doit être inclusif, estime cette plateforme, Tidiane Thiam, le coordonnateur de cette coalition.
Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger.
Absent de cette cérémonie, le PPACI qui depuis le 14 juillet 2024 a initié une démarche similaire autour de Laurent Gbagbo. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Guinée, 10 ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale pour détournement, enrichissement illicite et blanchiment. Ibrahima Sherif Ba est jugé par contumace à Conakry depuis début décembre. Il avait dirigé l'organisation bancaire entre 1996 et 2004. La cour lui reproche un décaissement sans trace d'environ 10 millions de dollars. Selon sa famille, l'accusé est actuellement à l'étranger pour des soins médicaux. Au Tchad, le journaliste Olivier Monodji, placé cet après-midi sous mandat de dépôt, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, a été inculpé, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère pour ses écrits dans ce média. Par ailleurs, correspondant d'RFI au Tchad, Olivier Monodji avait été arrêté mercredi dernier, puis placé en garde à vue à la coordination de la police judiciaire à N'Djamena. Jusqu'à présent, rien pour justifier son arrestation ne lui avait été communiqué. Les faits reprochés lui ont finalement été notifiés aujourd'hui, après avoir été auditionné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale tchadienne, le TGI, qui a ensuite annoncé publiquement avoir reçu des documents selon lesquels des Tchadiens auraient fourni des informations sur la sécurité et l'économie du pays à une puissance étrangère, sans préciser toutefois laquelle. Olivier Monodji et 3 autres personnes, dont un journaliste du service public, sont mis en cause. Esdras Dikoumana.
Le procureur de la République près le TGI de N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux 4 inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les 4 hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivier Monodji. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé que à la police judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays, des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction, approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les quatre ont été placés sous mandat de dépôt, ont été acheminés vers la maison d'arrêt de Kressoum pour y être incarcérés.
Esdrazdi Koumana, le M23 soutenu par le Rwanda, toujours à l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Les tensions restent notamment vives au sud Kivu. Pendant ce temps, au nord Kivu, après 4 jours de combat contre l'armée congolaise et des combattants locaux, le groupe armé a pris le contrôle de Nyabiondo dans le territoire de Masisi, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Cette percée leur ouvre désormais la voie de Wali Kale, Patient Ligodi.
Ces 4 derniers jours, la FCM-23 a consolidé son emprise sur le territoire de Masisi. Après la prise de Nyabiondo dimanche, ces groupes soutenus par le Rwanda pourraient poursuivre son avancée vers Kachebere. Cet axe mène directement Wali Kale Centre, encore sous le contrôle des forces armées congolaises. Kachebere se trouve à environ 120 km de Wali Kale Centre. Si cette localité venait à tomber, la FCM-23 pourrait alors accéder à la route nationale numéro 3, un corridor qui relie Wali Kale à Kisangani. Face à cette menace, les autorités congolaises assurent avoir renforcé la sécurité sur cet axe pour contenir la progression des rebelles. Dans le sud Kivu, la situation est différente. Le front de Kamanyola qui donne sur Uvira s'est stabilisé depuis 2 semaines. C'est à Uvira que le gouvernement provincial du sud Kivu s'est replié après la chute de Bukavu. Mais les affrontements se poursuivent plus au sud, notamment dans la chefferie des Kaziba, dans le territoire de Walungu, à plus de 50 km de Bukavu. Ici, les forces armées congolaises et le groupe Wazalendo tentent de contenir l'avancée de la FCM-23. Enfin, dans le Nord Kivu, un développement majeur s'est produit dans le territoire de Lubero. Dimanche, le général autoproclamé Kasereka Kassiano, qui dirigeait l'un des groupes Wazalendo, a annoncé son ralliement à l'AFCM-23. Sur ces fronts, selon l'armée congolaise, un militaire rwandais a été capturé et 4 combattants de l'AFCM-23 se sont rendus.
Patient Ligodi en République démocratique du Congo, toujours dans ce contexte donc de conflit dans l'est du pays. Les ténors du parti de l'ex-président Joseph Kabila ont été auditionnés à Kinshasa, au bain Minaku numéro 2 du PPRD. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari et son adjoint Ferdinand Kambéré ont quitté l'auditorat militaire de la capitale en début de soirée. Les autorités soupçonnent ces hauts responsables ou leur parti de collusion avec le M23 soutenu par le Rwanda, ce que eux ont toujours démenti dans les médias. Ils devraient s'exprimer dans la soirée. Une manifestation violemment réprimée hier en banlieue de Nairobi au Kenya. Au moins 10 personnes ont été blessées et 38 arrêtées dans le quartier de Kasarani. La mobilisation regroupant quelques centaines de jeunes était organisée à la suite d'un appel lancé sur les réseaux sociaux et ce afin de protester contre une donation importante du président kényan William Ruto, envoyé à l'église du ministère de Jésus le Vainqueur. Gaël Lalex.
20 millions de shillings kenyans, soit plus de 140 000 euros, c'est le don de William Ruto à l'église du ministère de Jésus le Vainqueur pour construire son extension. Une somme astronomique alors que nos écoles et nos hôpitaux ne fonctionnent pas, confie ce matin Patrick Kamao, l'un des manifestants. La confrontation avec les forces de l'ordre a duré plusieurs heures hier à Kasarani. Dès l'aube, l'église du ministère de Jésus le Vainqueur était encerclée par des policiers. La messe a été avancée d'une heure et écourtée de moitié, et les tirs de gaz lacrymogène ont duré jusqu'en milieu d'après-midi. Hier, Faith Odhiambo, la présidente de la Société kényane du droit, déplorait des violences policières. Les avocats de l'organisation se sont également vus refuser l'accès aux manifestants arrêtés. De son côté, William Ruto persiste et signe. Il donnera de nouveau 20 millions de shillings à une autre église, à Eldoret, dans la vallée du Rift. C'est un devoir moral, selon le président, qui considère que les manifestations d'hier sont l'œuvre d'un croyant. En novembre, les églises catholiques et anglicanes kényanes avait dénoncé avec virulence la corruption du gouvernement Ruto et annoncé ne plus accepter de dons de la part de politiciens. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
La crainte d'un long glissement sur la pente de la guerre pour le Soudan du Sud. Dans un nouveau rapport, l'International Crisis Group évoque un risque de conflit à grande échelle dans le pays. Le point de départ de cette inquiétude, c'est cette récente poussée de fièvre dans l'état du Haut-Nil, au nord-est du pays, secoué par des violences. Le président Salva Kiir accuse le camp du vice-président Riek Machar de menacer le gouvernement d'unité formé dans le cadre d'un accord de paix en 2018, une trêve qui mettait alors fin à 5 ans de guerre civile dans le pays. Une autre guerre désormais, celle au Soudan voisin, menace de gangréner le Soudan du Sud, Paul Lorgerie.
Selon le rapport de l'ICG, la tension est à son comble dans la capitale Djouba. Depuis quelques semaines, la guerre au Soudan a causé la perte de 2/3 des revenus liés à l'exportation de pétrole en raison de l'endommagement de l'oléoduc qui transporte l'or noir à travers certaines zones tenues par les forces de soutien rapide vers Port-Soudan. Résultat, le gouvernement d'Union nationale, qui ne tenait qu'à un fil, a vu ses revenus drastiquement diminuer, ayant comme effet une recomposition des alliances qui risque de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. Coupé de sa principale source de fonds qui servait son réseau clientéliste et donc la stabilité de son gouvernement, Salva Kiir s'est récemment rapproché du général Emeti, chef des FSR, s'éloignant ainsi du général Al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Cette dernière, elle, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices nuer affiliées à Riek Machar dans le Haut-Nil. Un cocktail qui a donné lieu le 4 mars dernier à la prise d'une base militaire dans la ville de Nasir par la White Army, alliée de Riek Machar, dont beaucoup de sympathisants ont été arrêtés par la suite. Si le vice-président est resté calme pour le moment, les chercheurs d'ICG préviennent que des milices qui lui sont restées fidèles se tiennent non loin de la capitale sud-soudanaise.
Paul Lorgerie, le président Salva Kiir a lui assuré qu'il ne replongera, je cite, jamais le Soudan du Sud dans la guerre, promettant de rester sur le chemin de la paix. Une possibilité qui craquelle, selon Emmanuelle Veuillet. Elle est post-doctorante en sociologie politique à l'EHESS et à l'Institut du Monde Africain. Elle répondait aux questions d'Arthur Ponchelet dans Afrique Midi.
La succession des incidents qui sont survenus là depuis maintenant ce dernier mois a gravement fait monter les tensions au sein du pays et les tensions donc entre les différentes forces politiques et militaires parties prenantes à l'accord de paix, avec une politique du côté du gouvernement qui est pas vraiment à l'apaisement. Et c'est pour ça que cette adresse à la nation qui est intervenue vendredi a permis à beaucoup de souffler. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un appel à l'apaisement, notamment parce que cette adresse à la nation faisait suite à l'assassinat de commandant en charge des troupes gouvernementales à Nasir. Et depuis une semaine, il y avait des affrontements armés entre les groupes gouvernementales et les forces...
Et la White Army qui est alliée à Riek Machar.
Alors la White Army qui a son propre commandement, qui n'est pas sous la commande de Riek Machar et du SPLM-IO comme le gouvernement veut le décrire intentionnellement pour pouvoir mettre la responsabilité sur les forces de la SPLM-IO.
Justement, cette guerre de 2013 à 2018, on y a mis fin avec un accord de paix en 2018 signé entre Salva Kiir et Riek Machar, mais depuis 2018, la mise en œuvre de cet accord de paix, elle est toujours précaire.
On voit qu'aujourd'hui, énormément des incidents qui interviennent sont la conséquence de la non-application de l'accord de paix. La première des provisions aurait été de unifier les forces armées des différentes parties prenantes de l'accord. Et donc, on n'aurait jamais eu aujourd'hui une discussion sur quelles sont les forces gouvernementales qui ont attaqué les forces IO ou les forces IO qui s'en seraient pris aux forces gouvernementales. Tout aurait été dans un seul et même appareil militaire unifié.
Il y a aussi la guerre au Soudan voisin. Comment est-ce que la guerre de généraux qui s'y déroule pourrait avoir des conséquences sur la situation politico-militaire au Soudan du Sud ?
La frontière commune a été une zone d'échange et de flux, et notamment d'armes et de munitions. Il y a eu aussi des troupes qui sont parties du côté soudanais soutenir à la fois les forces armées de Al-Burhan, mais aussi les forces de Hemeti. Le conflit au Soudan étant très cyniquement aussi une opportunité donc pour les forces armées sud-soudanaises d'obtenir donc des munitions, de l'armement et un soutien matériel. Et de la même manière, aujourd'hui, il peut y avoir un agenda aussi des forces armées soudanaises du côté Al-Burhan, mais aussi de RSF, d'essayer de s'allier à des forces armées au Soudan du Sud. Donc les deux scènes politiques sont encore une fois pas du tout stabilisées, il n'est pas du tout clair quelle force politique s'allie à quelle force au Soudan.
Emmanuelle Veuillet interrogée par Arthur Ponchelet. Deux matchs pour rapprocher la Côte d'Ivoire d'une quatrième participation à la Coupe du Monde de foot. Les champions d'Afrique affronteront le Burundi et la Gambie lors des 5 et 6e journées des éliminatoires. Pour le moment, les éléphants sont premiers de leur poule. Le sélectionneur ivoirien a dévoilé aujourd'hui sa liste de 23 joueurs. Ibrahim Sangaré, Jean-Philippe Bamin, Sébastien Haller ou encore Willy Boly font leur retour pour ce rassemblement. MRC Faye a confié avoir changé un peu les critères de sélection.
On avait une stratégie pour les matchs de qualification à la CAN qui était basée sur la performance, parce qu'on avait des matchs très très rapprochés, donc il fallait que les joueurs soient tout de suite compétitifs. pour cette fenêtre. Compte tenu de l'importance de ces deux matchs, qualif Coupe du Monde, on est parti sur un groupe avec un peu plus de joueurs d'expérience. Et on a essayé de faire un mix entre l'expérience de nos anciens et la fraîcheur de nos jeunes joueurs. Donc on est parti sur une liste, on va dire, mixte. Bien sûr, il y a toujours les critères de performance. On ne va pas sélectionner 23 joueurs qui ne sont pas performants en club et qui n'ont pas de temps de jeu. Mais pour les dernières trêves, on partait vraiment que sur des joueurs qui étaient compétitifs et performants en club. Donc là, on a ouvert quelques places en regardant vraiment le côté leadership. C'est pour ça d'ailleurs qu'un joueur comme Woulibaly fait son retour dans le groupe. Donc on a essayé de trouver, on va dire, un juste milieu pour mélanger entre la fraîcheur et l'expérience.
RFI, il est 22h50 en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Les principaux titres de l'actualité internationale de ce lundi 10 mars. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, sont en Arabie Saoudite. Les responsables doivent commencer demain à Jeddah des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Kiev compte proposer une trêve dans les airs et en mer. Greenpeace extrêmement préoccupé par la collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord cet après-midi. L'ONG dit craindre de multiples risques toxiques. L'un des navires transportait du kérosène, l'autre un gaz inflammable. Un membre de l'équipage du cargo est porté disparu selon son propriétaire. 32 personnes ont été blessées dans l'accident. Et puis c'est une opération qui aura fait plus de 1000 morts parmi les civils à la Houite en Syrie. Les autorités syriennes ont annoncé y mettre fin dans l'ouest du pays en fin de journée. Un projet minier parfois vécu comme une injustice par les populations en Guinée. RFI vous propose ce soir le deuxième épisode du dossier d'Afrique économique consacré au projet Simandou. Un programme qui se traduit par la construction de chemins de fer, d'un port minéralier et de nombreuses bases autour des gisements. Cela entraîne donc des travaux qui perturbent la vie des locaux. Certains sont même parfois obligés de quitter les lieux. Les sociétés minières proposent donc des compensations financières pour les habitants impactés, des mesures qui mettent en colère certaines communautés. C'est ce qu'il s'est notamment passé dans le village de Sungaya, où Alexis Bédu s'est rendu.
Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Vous voyez, regardez.
Avant, vous aviez de l'eau.
Oui. On avait de l'eau, on avait une grande fleuve ici. Ils ont arraché tout.
Il a une vingtaine d'années et la rage en lui.
On n'a rien ici. On n'a pas de l'hôpital. Des marchés, rien, même de l'eau à boire. Les jeunes ne travaillent pas, regardez-nous.
Son village est sur le tracé du chemin de fer en construction, tout près du port minéralier. Il en veut aux autorités et aux sociétés minières, car il a l'impression que le projet Simandou ne lui a rien apporté, ni emploi, ni sérénité. Et quand il passe à Conakry, la capitale...
Quand vous descendez là-bas, ils vont vous dire que vous êtes les boss, il y a un grand projet chez vous, il y a le grand port de la Guinée qui se trouve chez vous, vous êtes les boss. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe ici.
Et ce qu'il se passe ici, à écouter les villageois, c'est un bouleversement total dans les communautés. Les compensations financières octroyées par les sociétés minières ont chamboulé la vie de certaines familles, explique ce villageois.
Quand il y a compensation, les sommes sont si faibles que ça crée des divisions dans les familles. C'est tellement peu qu'on a du mal à se partager l'argent. Là où nous sommes, la famille de cette maison a été confrontée à ce problème. Il y a eu un conflit entre les frères et certains ont dû partir.
Les entreprises ont l'obligation légale de compenser les propriétaires terriens impactés par le projet. Chaque entreprise déroule son propre mécanisme et ils sont très disparates. Mamoudou Youla est un habitant de Sungaya.
Ici, pour un domaine d'un hectare, les sociétés ont donné entre 35 et 40 millions de francs guinéens.
Soit environ 4 000 euros. Près de Farana, l'année dernière, les habitants de deux villages, Laya Sando et Laya Doula, se sont violemment affrontés à plusieurs reprises à cause d'un différend lié aux compensations versées par Winning Consortium Simandou. Oumar Totiabari est directeur exécutif de l'Observatoire guinéen des mines et métaux.
Le long du corridor, on a assez de familles aujourd'hui qui se retrouvent devant les tribunaux déchirés pour la gestion de cette compensation. C'est des montants énormes qui se chiffrent parfois à des milliards de francs guinéens qui sont en jeu entre des familles et des personnes. Il y a ce manque de préparation des communautés mais aussi des instances de gouvernance locale parce que derrière, il n'y a pas un cadre réglementaire suffisamment robuste.
Alexis Bédu de retour de Sungaya, RFI.
C'était le deuxième épisode sur trois de notre série d'Afrique Éco consacrée au projet minier Simandou en Guinée. Dernier volet demain, dédié cette fois aux retombées économiques promises à l'État guinéen et ses alertes lancées par certains acteurs économiques pour ne pas reproduire les erreurs faites avec l'exploitation de la bauxite. C'est l'heure de notre tour d'actualité musicale avec Franck Baudin de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Paul et bonsoir à tous.
On commence notre sélection avec ce style de musique orientale, dansant et festif. On parle de raï ce soir. Ce qu'on écoute, c'est le célèbre tube Yaraya du regretté Rachita, une façon d'illustrer la une du site musique de RFI, Franck.
Et oui, c'est notre journaliste Marjorie Bertin qui s'est rendue à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, cette petite bourgade du nord de la France. Elle a visité pour nous l'exposition Yaraya, un événement qui met la musique raï à l'honneur. Son reportage nous explique tout de cette musique née en Algérie au début du XXe siècle. On y parle également de l'âge d'or du raï dans les années 80 avec ses icônes, Cheb Khaled, Cheba Fadella, Cheb Sahraoui et jusqu'aux nouvelles générations comme Sofiane Saïdi ou Cheb Bello. La liste est très longue, mais je vous invite à lire cet article pour en savoir plus.
Et on passe du raï d'Oran à la Kinya Trap de Kigali. Le titre Tabati de l'artiste rwandais Bouchali. Alors j'ai été bien attentif, Franck, ça ressemble quand même beaucoup à de la Kinya Trap, c'est ça?
Alors vous avez l'oreille fine, Paul, c'est bien de la Kinya Trap, ce style musical qui secoue Kigali depuis quelques années déjà. Il s'agit d'un mélange de trap, cette version américaine du rap 2.0, avec le Kinyarwanda, la langue nationale rwandaise. Ils s'appellent Bouchali, Ish Kevin ou encore Logan Joe et font partie de cette génération de jeunes rappeurs rwandais. Notre reporter Anne-Laure Lemancel les a rencontrés au cours d'un récent voyage dans le pays aux mille collines. Elle nous partage un grand angle sur cette musique rythmée.
Et pour finir, Franck, on prend la direction de la République démocratique du Congo?
Alors pas tout à fait, Paul. On va parler d'artistes congolais et d'artistes d'origine congolaise. Notre journaliste Pablo Patarin a posé la question comment les artistes d'origine congolaise dominent la scène musicale francophone.
Ah, je suis impatient d'avoir la réponse, mais où est-ce que je peux la trouver?
Alors la réponse, Paul, vous la trouverez dans notre grand angle qui est sur le site rfi.fr/musique. On revient sur les succès de Nino, d'Adju SDM ou d'Amso. Là encore, la liste est longue. On parle de leurs liens, leurs traditions, leur métissage culturel. Ça remonte jusqu'à Taboulet Rochereau pour certains. Rendez-vous compte, il faut lire l'article pour comprendre. Et pour illustrer ce sujet, j'avais envie de couper l'herbe sous le pied à DJ Facemaker qui sera ici à ma place demain soir. C'est tout frais, ça vient de sortir. Je vous propose d'écouter Ninao, le tout dernier tube de Gibbs.
Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier plus ciel, fait noir. Ils font tous des petit pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, j'connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon j'suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, j'vais rentrer tard, étrier bleu ciel, l'effet noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani nina oh, tani nani nani na oh, ani nanani nina oh. Tani na ni na ni na o, tani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o, tani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o.
Et c'est avec le titre Ninao de Gims que nous refermons cette chronique RFI Musique. présenté avec Franck Baudin. C'est aussi la fin de cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à vous pour votre fidélité. Raphaël Lazizi était à la réalisation. Alexis Guilleux à la rédaction en chef, assisté de Guillaume Bédrane. Dans, allez, 45 secondes, c'est le retour de l'actualité internationale avec Gali Bonin. Merci à vous d'écouter la Radio du Monde.
Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans. Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans. 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur Tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.